Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International pour cette nouvelle émission, émission consacrée eh bien à la soirée qui s'est déroulée et qui eh bien a vu plusieurs résultats importants. Avec en Coupe du Monde 2019, celle qui se déroule en France, un 3-3 pour les Bleus. L'équipe de France termine première de son groupe après sa victoire sur le Nigeria par 1-0. Mais un but qui fait déjà beaucoup parler, un pénalty inscrit par Wendy Renard, empli de polémiques. Nous allons vous expliquer pourquoi. L'autre match dans ce même groupe opposait la Corée du Sud et la Norvège. La Norvège a battu la Corée du Sud sur le score de 2-1. Trois défaites pour les Coréennes qui quittent donc la compétition alors que la Norvège continue. On ne sait pas encore pour le Nigeria. Dans le groupe B, trois équipes qualifiées, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine, alors que l'Afrique du Sud, elle, rentre au pays. Trois matchs, trois défaites pour les Banyana qui participaient quand même, et c'est important, pour la première fois en Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique des Nations en Égypte J-4 est d'abord les Aigles assurés de leur participation à la CAN après un accord au Mali en vue de réinstaurer la FEMAFOOT. Enfin, et puis les Lions de la Teranga dans leur nouvelle tanière entre mer Méditerranée et mer Rouge à Ismaïlia où ils se préparent à la CAN. Ils ont battu le Nigérian en amical. Pourquoi le Sénégal est-il parmi les favoris? Abi Bey nous livrera son analyse. Enfin, nous vous tiendrons au courant des derniers échos du Mercato entre vraies infos et vraies rumeurs. Et dans ce studio justement pour évoquer ces sujets, Patrick Juillard, bonjour.
Bonsoir Annie, bonsoir à
bonsoir,
tous.
Bonsoir, oui d'ailleurs. Notre camarade du site Foot Africa 365, toujours bien informé, et puis Naïm Moniol. Bonsoir Naïm.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Nous allons rejoindre aussi nos envoyés spéciaux du côté du Roazhon Park de Rennes, direction la Bretagne. Radio Foot, c'est parti.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
Ça joue, attention, oh, le coup de sifflet, non. Il n'y a rien. Et pourtant, elle réclame un pénalty, les Françaises. Un
pénalty. Pénalty en faveur de l'équipe de France.
Et c'est Wendy Renard qui va frapper face à Nadosier, la jeune gardienne, sixième sélection seulement ce soir pour le Nigeria. Elle s'élance, Wendy Renard, elle frappe en deux temps. Le poteau extérieur.
Elle ne l'a pas cadré. Elle ne l'a pas cadré. Et bien, les Nigérianes alors, sont toujours là.
Apparemment, alors, la gardienne se serait trop avancée par rapport à sa ligne de but. Et donc, le pénalty serait à retirer parce qu'elle n'est pas restée sur sa ligne au moment du tir.
Au moment du pénalty.
Que voilà. C'est sévère. Que
c'est donc, sévère. Donc, il y a Léo qui a de nouveau décidé ça.
Wendy Renard, la deuxième chance. Et cette fois, voilà, c'est au fond des buts. 1-0. En force. Côté gauche, mi-hauteur. Et là, Nadosier n'a rien pu faire. La gardienne, Chimanka Nadosier. Que c'est dur.
Là, c'est le scénario
pour les Nigérianes.
Victoire pour les Bleus, donc, vous le venez de l'entendre et vous l'avez sans doute suivi sur RFI avec Eric Chorin et Frédéric Suto qui commentaient donc ce match. Trois matchs disputés et trois matchs gagnés pour les filles de Corinne Diacre. 9 points et donc la première place du groupe A. Un match disputé, indécis aussi pendant de longues minutes, plus intense en deuxième mi-temps. Et puis ce scénario assez incroyable. Un pénalty, le pénalty de la polémique. Eric Chorin, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Annie, ouais. Bonsoir Patrick, bonsoir Naïm, bonsoir Laurent.
Eric. Salut Eric.
Le soleil se couche très tard en ce moment, en ce mois de juin. On aura les jours les plus longs sur la capitale et sans doute vous du côté de Rennes, mais quand même il fait déjà nuit, donc bonsoir Eric. En tout cas, Eric, le scénario, le match a basculé ce soir. Le Nigeria a perdu ce match pour des raisons qui sont un peu... pour un pénalty qui fait déjà beaucoup parler.
Mais vous avez vu un pénalty, vous. Moi j'en ai vu deux, je vois double. Il y a eu deux pénaltys ce soir pour
en
Wendy
plus,
Renard.
Effectivement, déjà y avait-il pénalty?
Écoutez, moi sur les images que j'ai vues au ralenti, je vois très très clairement la jambe de Ngozi Ebere par derrière qui
tape dans le talon de Viviane Asseyer qui l'a fait basculer dans la surface de réparation. J'ai l'impression qu'elle avait déjà plus ou moins raté son contrôle ou sa frappe, mais enfin le geste pour moi il y était. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose, mais clairement pour moi il y avait, même s'il y a eu besoin du recours à la vidéo, à l'arbitrage vidéo. Hein.
Vous l'avez dit, Eric, oui. C'est-à-dire que moi je pense effectivement, vous avez raison, qu'il y a eu contact, mais l'action était déjà finie pratiquement. Ça n'a pas gêné la frappe de la joueuse française, et donc le penalty est sifflable mais sévère pour moi. Voilà, c'est mon le résumé de ce que je pense.
Pour moi, il n'y a pas penalty puisque les deux pieds de la française sont décollés. Qu'en plus de ça, si on regarde bien au ralenti, la Nigériane regarde ailleurs, donc il n'y a ni intentionnalité ni. Je pense que c'est plus la proximité entre les deux joueuses qui font qu'il y a un contact et pas une volonté de faire faute. En plus, les deux jambes de Diani sont
décollées. Il y a peut-être pas intentionnalité.
Ni intentionnalité ni faute parce que les deux pieds de Diani sont déjà décollés, donc elle est déjà déséquilibrée. Alors ajoute un petit peu.
Elle a déjà fini son action. Voilà. Donc c'est pour moi, pour ça que je trouve.
Oui, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile.
En tout cas, Eric, donc appel à la VAR, il y a eu pénalty décidé, pénalty sifflé. Wendy Renard, rappelons-le, qui avait marqué deux buts sur le premier match, qui ensuite au deuxième match, malencontreusement, avait mis ce but contre son camp, et puis qui là s'apprête à tirer le pénalty, et je vous laisse raconter la suite.
Le tir à côté, poteau extérieur, elle a voulu tirer en deux temps, elle a ralenti, ça manquait un peu de puissance, elle est partie du bon côté Nadosier, mais surtout Wendy Renard, elle n'a pas cadré ce penalty, il est donc passé à côté. Ça fait beaucoup pour une joueuse qui a déjà marqué contre son camp lors du match précédent face à la Norvège, mais elle a de la chance Wendy Renard.
Bah oui, elle a de la chance.
C'est
parce
pas de la chance,
que...
non, Eric, c'est pire que ça.
En plus de ça, je trouve que son attitude, après avoir marqué le pénalty, est lamentable. Elle est célébrée comme si tu venais de gagner la Coupe du Monde, alors que tout le monde voit que c'est une erreur d'arbitrage manifeste. Fais-toi tout petit, pars te replacer, puis c'est bien, quoi.
C'est difficile, elle est grande pour se faire tout petit.
Oui, après, pourquoi parlez-vous d'erreur d'arbitrage sur le deuxième pénalty si effectivement le règlement c'est d'avoir le pied sur la ligne au moment de la frappe?
Pourquoi on en parle, Eric? C'est parce que.
Dites-moi.
Admettons qu'on soit extrêmement tatillon et qu'on ait une rigueur millimétrique et qu'elle ait le pied 3 cm devant la ligne au départ et donc qu'elle soit pas en bonne position. Mais Wendy Renard, de toute façon, ne cadre pas son penalty. La gardienne Nadosier ne tire pas avantage de cette position. Donc, dans l'esprit, il faut jamais faire retirer ce penalty. C'est de l'arbitrage à domicile. C'est Guinée équatoriale Tunisie à la CAN 2015.
Nous rappelle des souvenirs.
Ce qui est problématique au-delà du cas de ce soir, c'est que c'est la deuxième fois en deux matchs.
Et que c'est la même personne. Alors, ce qu'expliquaient nos confrères qui retransmettent le match, c'est qu'en plus, c'était la même arbitre qui était dans le camion de la VAR.
Vidéo,
exactement, dans le car régie. Et donc, c'est la même arbitre, Tatillonne, ont-ils dit, qui avait fait retirer un pénalty.
Italie-Jamaïque.
Voilà, exactement. D'accord. Exactement, sur l'autre match.
Puisqu'on en est, de toute façon, de manière absolument excessive et débile à comparer et les hommes et les femmes, il y a un point commun sur les arbitrages, c'est qu'ils sont tous les deux ridicules. C'est que l'utilisation de la VAR, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, n'est pas convaincante et globalement il y a quand même de grosses erreurs d'arbitrage sur cette compétition. Il y a eu également un Angleterre-Écosse où on a vu des choses assez folles.
Espagne-Afrique du Sud aussi.
Donc c'est un raté sur cette phase de poule, l'arbitrage.
Écoutons en tout cas la réaction de Wendy Renard, recueillie par nos confrères de la chaîne Canal+, si je ne me trompe pas, qui retransmet le match. Écoutons Wendy Renard, elle se satisfaire de ce qui s'est passé.
Au sport de haut niveau, si t'es pas armé mentalement, ça sert à rien de faire du sport. Donc il y a des épreuves à chaque instant et il faut savoir les surmonter. Encore une fois, on l'a surmonté ensemble parce que ce pénalty, il vient pas de moi, il vient de notre travail collectif où Vivienne a réussi à obtenir. Donc après, j'ai fini le boulot, même si c'est dans un second temps, mais je l'ai fini quand même. Donc il y a des règles et les règles ont été respectées ce soir et tant mieux pour nous et pour l'équipe.
Les règles ont été respectées ce soir, donc c'est ça la morale, Eric.
Comme vous le disiez, les règles peut-être, mais pas l'esprit. Et c'est sûr que pour l'image de l'équipe de France, c'est pas idéal. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a eu 22 tirs français, donc ces Françaises ont globalement dominé la rencontre, mais il n'y en a eu que 4 de cadrés, donc c'est quand même assez pauvre. Et l'animation offensive tricolore, elle va faire parler aussi.
À la 64e minute.
Exactement, ouais. Avec Amel Mojri, une frappe assez puissante, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions et qu'on n'avait finalement pas trouvé les bonnes combinaisons ce soir.
C'est vrai qu'il
n'y
a pas eu beaucoup de solutions sur ce match.
Donc Eric, à ce stade, on se demandait justement si l'équipe de France, qui avait fait un peu une démonstration face à la Corée du Sud sur le premier match, on s'en souvient, l'ouverture au Parc des Princes, mais qui ensuite, face à la Norvège, avait été un peu limite par moment et avait arraché cette victoire là aussi grâce à un pénalty. Que diriez-vous des Bleus que vous avez vus ce soir, où certes, il y avait eu pas mal de changements?
Ben, l'animation offensive a finalement été meilleure en deuxième période qu'en première période, donc c'est pas très bon pour les choix qu'elle avait opérés en première période. Delphine Cascarino a pas souvent eu le geste juste. Valérie Gauvin, ben, on ne l'a pas vu beaucoup, elle a pas pesé beaucoup sur cette rencontre. Finalement, Candiani et le Sommer sont rentrés, qu'Asseyi est passé côté droit, ce qui est un choix assez fort d'avoir maintenu Asseyi, hein, d'ailleurs, plutôt que Gauvin ou plutôt que Cascarino, alors qu'elle avait un peu quitté le front de l'attaque de cette équipe de France. Bon, bah ben, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais ça veut dire qu'elle a toujours pas trouvé la bonne carburation et les bons réglages depuis quelques matchs. C'est difficile, hein, pour les Bleus, alors qu'elles avaient eu des matchs de préparation plutôt plus intéressants. À l'arrivée, en fait, ce match, il a été bon pour personne. Les Bleus devaient engranger de la confiance. Alors oui, il y a la victoire, mais il n'y a pas la confiance améliorée. Il n'y a pas eu vraiment des réglages plus intéressants qu'il n'y avait eu face à la Norvège. On peut même considérer que le but quand même marqué par Valérie Gauvin, c'était quand même une action nettement plus intéressante que ce qui a été proposé ce soir. Et de l'autre côté, c'est pas bon évidemment pour le Nigeria, parce que oui, ils sont pas encore éliminés, mais enfin, les Nigérians, là, quand on regarde un peu les résultats, ça va quand même être difficile. Certes, la différence de but est pas trop défavorable, mais il y a encore des équipes qui peuvent leur passer devant au titre de meilleur troisième. C'est déjà le cas avec la Chine aujourd'hui, hein.
Ouais, et puis après, avec ce carton rouge aussi, hein, sur une de leurs joueuses, donc ça n'arrangera pas trop leurs affaires. Naïm Ognol, qu'avez-vous pensé de la prestation des Bleus, eux, ce soir?
Extrêmement faible, dans la lignée de ce que j'ai vu contre la Norvège, avec beaucoup d'approximation technique. Alors, contre la Norvège, il y avait une équipe qui jouait au foot, qui pressait haut, qui essayait de faire quelque chose. Là, le Nigeria avait juste besoin d'un match nul, et sa mission était de faire un match nul avec un bloc bas, d'être bien en place. Ils l'ont fait sur l'ensemble quasiment du match. Et ce qui est très problématique, c'est que on n'a pas vu l'équipe de France trouver de solution, avec pourtant quatre joueuses à vocation offensive. On a vu des longs ballons sur Cascarino qui n'aboutissaient jamais. On a vu une Gaëtan Tiné qui a absolument tout raté. Et en plus de ça, l'équipe de France, sur les deux ou trois pauvres comptes que la Norvège, que le Nigeria a réussi à mettre en place, je les ai trouvés défensivement à la perte du ballon en grande difficulté pour revenir. Donc, j'ai pas vu un beau match. On parle souvent à la fin des phases de poule de montée en puissance. Moi, l'équipe de France féminine a fait une descente en puissance.
Ça va décrescendo. Je suis d'accord avec Naïm. Alors, en plus, le plus gros adversaire, c'est dans cette poule, c'était la Norvège, que la France a joué en deuxième. Le troisième match, l'équipe est qualifiée. La France aurait dû jouer libérée, à défaut de jouer dans une intensité folle, parce qu'on est déjà qualifié, au moins essayer de se faire plaisir, au moins essayer de faire des belles actions, au moins essayer de faire des dédoublements, de la combinaison. Par exemple, les deux latérales. Alors Amel Majri, on l'a dit, c'est elle qui a mis la première frappe cadrée, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvée décevante. Périssé, de l'autre côté, a été pour moi très faible aussi.
Et Torrent avait été faible contre la Norvège.
Et c'était pas terrible. Et puis, alors Cascarino, elle a été très en vue. C'est vrai qu'elle
a fait une très belle passe.
Elle a eu des initiatives, mais dans l'ensemble, les attaquantes étaient pas assez disponibles, donc on s'est un peu trop reposé sur ses épaules.
Manque de précision, une fois encore.
Il y a un problème dans cette équipe, c'est que il y a pas beaucoup d'avant-centres de profession dans la liste des 23. C'est souvent des ailières qui sont replacées, qui marquent les buts. On pense à Le Sommer, on pense à Cascarino. Ça peut-être poser problème, ce manque de présence dans l'axe de la surface.
Et puis surtout, il y a un manque de créativité, c'est que c'est très difficile de comprendre le jeu de l'équipe de France, qui a des bonnes individualités, mais qui globalement, le jeu de l'équipe de France se résume à lancer des ballons sur les côtés. Pascal soulignait Cascarino, soulignait Diani quand elle joue, ou Le Sommer sur l'autre côté. On allonge beaucoup le jeu, mais on se rend compte que finalement, dans ce qu'on appelle les actions construites, quand on ressort par derrière, quand on essaye de créer du mouvement, des triangles de passe, ça marche quand même très moyen, il y a beaucoup de ballons perdus. Alors sur cette phase de poule, c'est pas préjudiciable parce que les adversaires étaient pas d'un grand niveau. Si sur le huitième de finale, par exemple, et c'est tout à fait possible, tu te retrouves à jouer le Brésil ou l'Australie, ça peut déjà poser problème dès les huitièmes de finale.
Eric ?
Oui, non, je suis tout à fait d'accord dans les analyses. Alors, ça fait longtemps quand même que le jeu passe par les côtés de cette équipe de France et qu'il y a un déficit dans l'axe. Une des rares joueuses qui pourrait apporter quelque chose dans ce groupe dans l'axe, c'est Grace Gayoro, qui ne trouve pas les faveurs quand même de Corinne Diack, si ce n'est pour remplacer en fin de match Gaëtan Tinet. C'est quand même pas beaucoup pour apporter de la créativité. Après, c'est ce schéma-là que j'ai vu depuis un long moment. Et quand on se repose un peu trop sur les couleurs, on l'a vu lors des matchs de préparation, les Américaines avaient bloqué totalement le côté gauche. Alors il y avait eu des solutions à droite, ensuite les Allemandes avaient bloqué les deux côtés, il y en avait plus du tout.
Surtout
il y avait
quand c'est balancé, c'est que à la rigueur quand tu passes sur les côtés mais que tu as du jeu construit, des triangles de passe, des latéraux qui dédoublent, tu peux, mais quand c'est au final 2-3 passes latérales au milieu et un ballon de 40 mètres pour essayer de passer par-dessus la défense parce que au sol tu trouves pas la combinaison, le bloc nigérian a très bien joué le coup, mais sans dévaloriser la prestation du Nigeria, ça n'est que le Nigeria. Quand tu vas jouer le bloc allemand, le bloc australien, le bloc américain, ces équipes-là sont capables de venir te chercher le ballon dans les pieds. Chez toi, ça va pas jouer à deux lignes de quatre dans les 30 mètres. Ils vont avancer vers toi, ils vont te presser.
Et moi, comment tu fais comme ça? Moi, globalement, je trouve que cette équipe manque de quelqu'un à la barre. C'est-à-dire, je suis déçu un petit peu par Amandine Henry. Moi, par exemple, c'est quand même une joueuse majeure d'un grand club. C'est une des meilleures, un des meilleurs milieux de terrain du monde.
Qui a récupéré le brassard.
Est-ce qu'on voit vraiment cette influence-là quand on regarde l'équipe de France? Moi, je trouve pas. Il y a pas assez pour moi de dépassement de fonction des milieux de terrain, notamment des milieux de terrain axial dans cette équipe. Quand on joue contre un bloc bas, il faut que le milieu monte plus en zone offensive pour offrir des solutions. Je trouve qu'elles l'ont pas assez fait ce soir, moi, personnellement.
Un peu plus en deuxième période.
C'était mieux en deuxième mi-temps, effectivement. Voilà.
Comme face à la Norvège, d'ailleurs. Après, moi, je voulais juste signaler une chose. Messieurs, vous avez suivi la Coupe du Monde en Russie, non? C'est ça? Avec les messieurs, avec
absolument.
Les garçons?
Absolument.
On a regardé le troisième match des Bleus face aux Danois. C'était comment?
Ah, c'était le pire match
indigent.
Du tournoi.
Eric, Eric, moi, si
je me moque.
Eric, sincèrement, si je peux me permettre de répondre à ça, parce que j'ai déjà entendu.
D'abord,
quand on n'est pas là à faire des parallèles, l'équipe de féminine joue mal, alors que l'équipe de France masculine joue bien, et on l'a vu contre la Turquie et même contre l'Andorre, que ça joue pas spécialement bien. Mais par contre, il faut être honnête. Quand, à la fin de la phase de poule de la Coupe du Monde masculine, on a tiré le bilan, on les a déglingués. Et faut dire la vérité, on les a dessoudés parce que c'était nul. Là, j'ai quand même l'impression que, comme c'est la Coupe du Monde féminine et qu'on veut pas heurter les sensibilités et qu'il faut un petit peu surfer sur la doxa dominante, il faut pas dire que c'est pas bien. Il faut pas dire que les pénaltys sont volés, il faut pas dire que ça joue mal. Bah, moi, je le dis, ça joue mal.
moi, je le dis aussi.
Je pense qu'on le dira demain matin. Je pense que la presse sera un petit peu plus sévère qu'elle ne l'a été jusqu'ici avec cette équipe de France. Je pense.
Sans doute.
Ça risque d'être difficile pour les joueuses qui n'ont pas l'habitude d'être critiquées. C'est quelque chose qu'elles ont encore du mal à gérer. J'ai quand même le sentiment que, pour l'instant, ouais, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a peut-être de l'arbitrage à la maison. Il y a aussi cette chance, effectivement, des équipes à domicile. Et que pour l'instant, on attend le match couperet en huitième de finale. Effectivement, en étant à un meilleur niveau, mais c'est là qu'elles auront quelque chose à démontrer. Et, vraiment, les attendre au rendez-vous, là.
Ouais, et ça sera donc, Eric, dimanche soir, du côté du Havre, pas trop loin de là où vous vous trouvez.
Reste à connaître l'adversaire.
Exactement.
Voilà. Et on le saura demain soir, très probablement, puisqu'il risque de sortir du groupe C. Les Brésiliennes, ça serait sympa.
France-Brésil, décidément. La France est abonnée. En tout cas, la Norvège a remporté son match en même temps, puisque les deux matchs se déroulaient en même temps, face à la Corée du Sud, sur le score de 2-1. Vous avez trouvé les Coréennes
bien meilleures. Meilleures contre match. La France. Je les ai trouvées peut-être parce qu'elles sont éliminées et qu'elles n'avaient plus rien à jouer, qu'elles étaient complètement libérées. J'ai trouvé qu'elles jouaient vite, qu'elles se procuraient des occasions. Alors évidemment, ça règle pas beaucoup la mire quand c'est à la surface. C'est beaucoup de frappes écrasées, des ballons qui terminent dans les gradins alors que ça tire au point de pénalty. Mais globalement, je trouvais que dans l'intention, c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur et contre la France, mais aussi contre le Nigeria. Et à noter que la Norvège a quand même fait un match, une belle prestation.
Donc la Norvège est qualifiée, la France aussi, la France première du groupe, donc on le rappelle. Et pour le Nigeria, eh bien, le suspense continue. Merci beaucoup, Eric Chorin, d'avoir été avec nous. Et bon courage alors pour le reste de votre nuit.
Oui, on va travailler un peu. Bonsoir Annie et bonsoir au tonton flingueur à côté de vous.
Bonsoir Monsieur Blier.
Ils sont en forme. Merci beaucoup Eric, à très bientôt.
Salut.
À très bientôt. Il y avait aussi, alors nous on est on était dans le groupe A ce soir, sur le groupe A, mais avant le groupe B avait joué ses deux matchs au même moment. Pour ce qui est de la Chine et de l'Espagne, elles avaient besoin d'un match, pas besoin de plus qu'un match nul, et c'est resté à 0-0. Les deux équipes sont donc qualifiées pour le tour prochain. Et puis pour ce qui est Afrique du Sud, Allemagne, alors là l'Allemagne s'est fait un peu plaisir, un carton 4-0, mais surtout les Sud-Africaines, la première équipe eh bien à rentrer officiellement au pays, ces Sud-Africaines, elles avaient fini deuxième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais en même temps, elles se qualifiaient pour la première fois pour une Coupe du Monde. Et écoutons Désirée Ellis, l'une des joueuses importantes de cette équipe.
C'est la sélectionneur.
La sélectionneur de cette équipe, parce que elle explique bien comment son groupe finalement c'était alors là on pense au baron Pierre de Coubertin, le plus important c'était de participer.
Je pense que nous avons concédé trop vite un but en première mi-temps, puis un deuxième sur une nouvelle erreur défensive. Nous n'avons pas marqué sur nos occasions, les grandes équipes comme l'Allemagne finissent par vous punir dans ces cas-là. Mais encore une fois, je repars avec le sentiment d'avoir joué du bon football. Sur ce match, nous avons eu trois face-à-face avec la gardienne adverse et nous n'avons pas su concrétiser. Cela joue forcément sur notre confiance ensuite et nous empêche d'espérer mieux face à l'une des meilleures équipes du monde. Une équipe de première classe, très très bien organisée, donc félicitations à l'Allemagne. Je pense que les gens au pays ont vu les fans ici applaudir notre équipe. Nous n'avons pas eu les résultats que nous espérions, mais cela fait partie de notre apprentissage. Nous sommes venus tellement heureuses de participer à cette Coupe du Monde et nous avons montré ce que l'Afrique du Sud était capable de faire. Alors même si nous n'avons pas eu de bons résultats, nous sommes satisfaites de nos performances, même si cela ne nous permet pas de poursuivre l'aventure.
Alors l'important c'était de participer, oui. Effectivement c'est toujours une expérience intéressante pour une équipe à ce niveau-là, mais en même temps peut-être Naïm, on a vu un gouffre entre malheureusement les équipes africaines, même la deuxième meilleure d'Afrique, et puis d'une façon générale le monde occidental.
Ouais, mais c'est toujours un peu le problème, hein. C'est des équipes, alors l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est des équipes qui participent à la Cyprus Cup, qui sont un petit peu ouvertes aux équipes européennes sur des matchs amicaux, mm-hmm. qui affrontent beaucoup de pays européens, alors que le Cameroun c'est quand même, mis à part un match contre l'équipe de France amicale là, y a pas longtemps, c'est quand même des équipes qui ne jouent que contre des équipes africaines. Peut-être aussi que le problème est là. Sur ce groupe-là, l'Afrique du Sud, elle tombe sur l'Allemagne, qui est favorite de la compétition, une des favorites. Elle joue l'Espagne, qui a la moitié de ses joueuses qui jouent au Barça. La Chine, ça reste une équipe très compliquée à jouer, même si c'est pas d'un niveau phénoménal. Pour une première participation, tomber dans un groupe comme ça, c'est évidemment très compliqué, mais c'est toujours de l'expérience à prendre. Et ben, la prochaine étape, c'est de gagner la CAN féminine et de revenir.
Ouais, disons que j'avais trouvé très encourageant leur premier match contre l'Espagne, où elles menaient, où elles avaient mille doutes dans la tête de ces Espagnols qui étaient un petit peu encore pas vraiment rentrés dans la compétition. Elles ont eu une décision d'arbitrage très défavorable avec un pénalty quand même très sévère qui les a un peu mises dedans. Et ensuite, j'ai l'impression que quelque chose s'est cassé un petit peu. Elles ont jamais démérité, mais il y a trop de... On sent trop l'inexpérience, on sent trop le manque de... parfois aussi d'intensité physique. Et là, contre l'Allemagne, c'était même pas l'équipe A. En plus, Marosan, qui est la meilleure joueuse allemande et peut-être la meilleure joueuse du monde à l'heure où on parle, elle n'était pas là. Donc c'est dire quand même, comme l'a dit Naïm, l'écart qui subsiste entre certaines équipes et d'autres. Et moi, plus globalement, je trouve que la FIFA a trop vite passé ce tournoi à 24. Il n'y a pas encore 24 équipes assez bonnes pour pas que ce soit trop disparate, souvent, quand on regarde les matchs. Et il y a souvent trop d'écart entre les deux équipes quand on regarde les matchs, surtout au premier tour.
Oui, au premier tour, effectivement, où 8 équipes se retrouvent éliminées, mais où finalement, c'est vrai que les différences de niveau sont...
Vous voyez la Thaïlande, par exemple, bon, elles ont mis un but, c'était comme si elles avaient gagné la Coupe du Monde, mais l'écart, le delta est trop important entre toutes les équipes.
L'Afrique, nous sommes à J-4 de la CAN, du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Égypte d'ici peu et RFI sera très présent. Nos envoyés spéciaux d'ailleurs commencent à se déployer sur le terrain. En tout cas, une équipe qui est assurée de disputer la compétition et la 11e de son histoire, eh bien c'est celle du Mali. Les Aigles, en effet, ont été sauvés, on va dire, grâce à l'entente qui finalement a surgi entre les membres de l'Assemblée Générale qui s'est tenue tenu samedi à Bamako sous l'égide du CONOR, du comité de normalisation et aussi de la FIFA, puisque la FIFA qui a mis sous tutelle cette fédération, avait donné un ultimatum. Il fallait absolument que quelque chose sorte de cette assemblée générale, et finalement au bout de 14 heures de discussion, de disputes, de désaccords, une conciliation a été trouvée, les statuts de la fédération malienne ont été adoptés, et nous allons écouter la satisfaction d'un des dirigeants maliens de ce football du Mali, donc Issa Sidibé, délégué de la Ligue de Bamako. Il est au micro de notre correspondant à Bamako, Mahamadou Kaloga.
Et assez tard comme ça, c'est que nous venons de voter. Effectivement, c'était l'essentiel pour sauver le Mali. Et le Mali a été sauvé à travers l'adoption des nouveaux textes de la Fédération malienne de football en conformité avec les textes des instances du football mondial. Et ce n'était pas facile, mais les uns et les autres ont fait un sursaut d'orgueil et en mettant le Mali au devant de tout. Et c'est ce qui nous a permis effectivement de sauver non seulement notre pays, mais le football de notre pays. Cette crise n'avait que trop duré. Et à partir de là, nous comprenons maintenant ce que les gens viennent de montrer à l'opinion nationale et internationale. Il faudrait maintenant que la crise du football malien soit un mauvais souvenir.
Alors, pour qu'elle soit un mauvais souvenir, ce CONOR, ce comité de normalisation, a 2 mois pour organiser une assemblée générale élective. Alors, espérons qu'une fois que la CAN sera terminée, les esprits resteront à la conciliation. Patrick, on dirait enfin, c'est parce que ça faisait si longtemps que durait cette crise.
Et je suis pas sûr qu'elle soit résolue sur le fond. C'est-à-dire que là, l'ultimatum et la possibilité, le risque de voir l'équipe nationale privée de la CAN à jouer dans le sursaut qu'il y a eu pour adopter les statuts comme l'avait demandé la FIFA et donc Fatma Samoura, la secrétaire générale qui surveille de très près ce dossier. Je suis pas sûr que les problèmes de fond soient réglés. Maintenant, l'impératif principal pour le foot malien, au-delà de ce problème de statut et de fédération, c'est que le championnat reprenne dans des conditions normales. Et moi, j'en parlais il y a quelques semaines avant la CAN. J'ai interviewé Diadier Samasekou, le milieu de terrain qui est issu du championnat qui joue au RB Salzbourg, qui me disait, moi, surtout ce qui m'inquiète, c'est tous les frères qui sont restés au pays, qui n'ont pas beaucoup de l'occasion de jouer. Dans quel état seront-ils? Est-ce qu'ils pourront nous aider? Est-ce qu'ils pourront reprendre leur activité normale? Et c'est ça, pour moi, l'impératif. On a vu combien ça avait handicapé le Bénin pendant des années, puisque là-bas, le championnat était arrêté. L'équipe avait été en chute libre.
Et le Gabon en souffre aussi.
Et le Gabon en souffre aussi, même si le Gabon a d'autres problèmes au-delà de ça. Mais oui, effectivement, donc ça, c'est... J'espère que aussi, surtout, ils penseront à l'intérêt du football et des footballeurs avant de penser à l'intérêt de la Fédé et des instances. Quoi.
Surtout que les groupes de jeunes, notamment, se débrouillent plutôt bien dans les compétitions. On a encore vu le Mali il n'y a pas longtemps en Pologne.
Quart de finaliste du Mondial U20. Exactement. Et d'ailleurs, Koïta a été pris dans le groupe
U23. Il est dans la liste,
donc,
absolument.
C'est une très bonne nouvelle. Non, mais ce qui est terrifiant, c'est que ils apprennent leur participation officielle à la CAN à même pas une semaine d'entrée en lice. C'est une honte, c'est scandaleux. Enfin, qu'à un moment donné, il faut que les gens prennent des responsabilités. Et je ne suis pas pour l'ingérence de la FIFA dans le travail des confédérations et certainement pas en Afrique. Mais à un moment donné, taper du poing sur la table et déblayer un petit peu pour que ça avance un peu plus vite, ça serait bon,
ceci
tout
dit,
indiqué.
Infantino, dans ses dernières interviews, n'est pas particulièrement tendre avec la CAF, même si on le dit proche de Hamad.
Mais il vient d'être élu, alors il a peut-être une liberté de parole.
Mais ça, après, c'est très joli de faire des discours. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? L'autre, il s'est fait cueillir à 8h du mat comme un dealer à Paris. Donc il est un peu obligé aussi de sortir les griffes, Infantino. Mais c'est scandaleux parce que le Mali a un tel réservoir de joueurs et nourrit tellement d'ambition sur cette compétition. Ils arrivent avec Marega. Marega a fait une Super Ligue des Champions, par exemple. Vous voyez, donc il y a quand même des joueurs qui ont un certain niveau. Le Mali, même s'il n'est pas favori, est un outsider plus que crédible. Et au final, sa Coupe d'Afrique peut être pétée pour une histoire comme ça.
Et on l'a souvent vu avoir des très bons résultats dans les CAN précédentes. Hein. On se souvient, il a fini deux fois troisième.
Exactement. Équipe très régulière, en effet.
Quelques instants, on va s'arrêter sur le cas du Sénégal, car les Lions de la Teranga figurent parmi les favoris de cette compétition. Un retour sur le débat que nous avons eu tout à l'heure avec Habib Bey, Salim Bongali et David Lortolari. La Teranga, le Sénégal.
Dont je reviens.
Voilà, Habib. Et les lions du Sénégal, donc, qui sont. Alors, la CAN est à J-4, hein, pour ce qui est du coup d'envoi de Égypte-Zimbabwe. Les lions sont eux à J-6, puisque ça sera lundi prochain à 17h, dimanche prochain, pardon, à 17h en temps universel, qui joueront face à la Tanzanie. Ça veut dire Teranga, ça veut dire hospitalité, ouais. On l'entend comme ça en Wolof. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sadio Mané qui a déclaré à 11 Mondial ces jours-ci que pour lui, lion de la Teranga, il n'aimait pas parce que ça veut dire un gentil lion, tout mignon. Et lui, il veut bien être un lion de la Teranga dans la vie tous les jours, mais oui, pas, oui, sur, pas le sur le terrain.
Mais il y a eu ce débat depuis très longtemps au Sénégal, et c'est vrai que parfois on n'aime pas, enfin les supporters, les gens proches de cette sélection n'aiment pas qu'on dise justement lion de la Teranga. Parce que, mais l'hospitalité,
c'est pas forcément une réalité gentil,
dans la vie de tous les jours et dans le pays, dans ce qu'on vit, oui, c'est le cas. Mais c'est vrai que sur le terrain, on doit être plus que ça. On doit être lions.
Des lions enragés?
Oh, oui, ou enragés, mais des vrais lions. Déjà, un lion, quoi qu'il arrive, fait peur.
Alors, ces lions, le Sénégal s'est préparé en Espagne ces derniers jours. C'était du côté d'Alicante pour cette CAN, dont il est donc un des grands favoris. Et avant de prendre la direction du Nil, alors, les joueurs s'étaient prêtés à cette cérémonie, la cérémonie du drapeau, quand on remet les couleurs nationales. Ça s'est passé dans d'autres pays d'Afrique ces derniers temps. Je pense à la Mauritanie, mais il y en a eu d'autres. En Guinée aussi, notamment, parce qu'on a vu passer les photos sur les réseaux sociaux. Habib, racontez-nous le côté de cette cérémonie. Est-ce que c'est très solennel? Est-ce que c'est quand même aussi très agréable?
Non, c'est solennel, mais c'est agréable. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que lorsque le président de la République, et moi je l'ai vécu avec Abdoulaye Wade, cette remise de drapeau, en fait, il vous investit d'une mission, c'est-à-dire dans la représentation du pays. Alors ça vous met une certaine pression, mais cette pression, nous sommes préparés à la vivre, et on aime l'endosser, cette pression, parce que c'est ce qui nous fait aussi avancer en tant que sportif de haut niveau. Mais je crois que cette remise du drapeau, au-delà du fait qu'elle soit aussi parfois une vitrine politique, il faut jamais le perdre de vue, mais je trouve que ça permet aussi à tout ce groupe d'être avec le président de la République, celui qui représente la nation, et en reprenant ce drapeau, on est investi d'une mission et on sait qu'on part pour réaliser quelque chose et surtout représenter notre pays au mieux. C'est pas de dire on part avec ce drapeau et il faut absolument gagner. Oui, on a tous cet objectif là, mais avant tout, c'est faire de représenter ce pays et surtout être digne de ce drapeau.
Eh bien, on va l'écouter. Macky Sall, c'était le 7 juin dernier, juste avant que donc l'équipe du Sénégal ne quitte le pays. Écoutons-le lui aussi mettre un petit coup de pression sur les joueurs.
Vous êtes à la porte de l'histoire. Vous avez tout ce qu'il faut pour entrer dans l'histoire. Alors, c'est sur vous que reposeront nos espoirs. Quand vous descendrez sur le terrain, souvenez-vous de la devise nationale, un peuple, un but, une foi. Jouez pour le peuple, marquez autant de buts possibles et surtout, ayez foi en vous-même. On dit qu'avec la foi, on peut soulever des montagnes. Alors, avec la foi, on peut certainement soulever une coupe. C'est ce que nous vous souhaitons. Nos vœux et prières vous accompagnent. Allez les lions, Tchakanam, Dembadia.
Certains trophées sont très très lourds, hein, Annie, à soulever.
Oui, il y a certaines coupes, la coupe de l'UEFA, je crois, hein, la Ligue Europa. Habib, cette devise du pays, c'est presque la devise de l'OM?
Oui, ça y ressemble.
Un peuple, un but, une foi. C'est pour ça que les Sénégalais aiment l'OM.
Je pense que oui, c'est pour ça. Mais
en revanche, pardonnez-moi, mais quand on entend Macky Sall, là, la pression, elle est là quand même, hein, dans sa voix, dans son ton, dans les mots utilisés.
Mais en même temps, il est conscient que le football, parfois, apaise le contexte social. Et tous les présidents s'en servent. Abdoulaye Wade s'en était servi parce que il faut savoir que pendant un mois, les gens oublient tout, sont focalisés sur ce football et ce jeu que tout le monde adore, et qu'en quelque sorte, parfois, ils peuvent oublier leurs soucis. Le souci quotidien que peuvent représenter certaines choses en Afrique, on le sait, pour la vie de tous les jours. Et je crois que le fait d'investir comme ça les joueurs d'une mission, c'est tout à fait logique de la part du président, et ils vont le relever avec, j'espère, avec brio.
Et ben justement, on va entendre Aliou Cissé, qui évidemment a été là, lui aussi présent à cette cérémonie, et qui rebondit sur les propos du président.
prendre d'abord les matchs les uns après les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de finale tant qu'on n'a pas joué le match contre la Tanzanie. Il nous faudra énormément de sérénité et de calme. Je crois qu'aujourd'hui, l'esprit de groupe sera important. L'expérience qu'on a engendrée sur ces 4 dernières années aussi. Et puis, bien sûr, cet esprit de la gagne que le président vient de dire, qu'il faut jouer pour gagner. Et je pense que ce sont ces trois aspects-là. Dans ces trois directions-là, nous y travaillons depuis 4 ans. J'espère que vraiment ça paiera cette année-là.
Macky Sall disait tout à l'heure, vous êtes à la porte de l'histoire. Alors évidemment, vous avez tout pour entrer dans l'histoire. Habib, dites-nous pourquoi ces lions de la Teranga, ces lions du Sénégal sont parmi les favoris.
Ils sont parmi les favoris parce que sur le papier, ils ont sûrement l'équipe la plus belle d'Afrique aujourd'hui et puis qui sont premiers aussi au classement des équipes africaines, au classement FIFA des équipes africaines par rapport au dernier résultat. Maintenant, là où il faut tempérer un petit peu les choses, et c'est ce que j'ai dit lorsque je suis parti à Dakar, c'est que pour moi, le statut de favori s'acquiert sur le terrain. Et il ne peut pas être comme ça décrété parce que vous avez une bonne équipe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez le Ghana, lorsque vous regardez l'Égypte, lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 trophées, lorsque vous regardez
le Maroc,
toutes ces équipes-là ont gagné des trophées. Le Cameroun, qui a encore gagné en 2017, qui a 5 trophées, je crois, continentaux. Le Nigeria. Toutes ces équipes-là ont beaucoup plus d'expérience. Alors oui, on va me dire sur le papier. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le papier ? Lorsqu'on regarde aujourd'hui...
Sur le papier, ça veut peut-être dire aussi que cette équipe est ensemble depuis quelques temps et qu'on l'a vu quand même
vrai,
plutôt intéressante
équipe,
à la Coupe du Monde.
Cette équipe, malgré tout, a eu des défaillances. Mm-hmm. Elle n'a pas passé le stade des quarts de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique.
En 2017,
elle n'a pas été en 8e de finale de Coupe du Monde alors qu'elle avait gagné son premier match contre la Pologne. Et c'est ce dont parle Aliou Cissé. Il dit aujourd'hui, on a accumulé de l'expérience, mais accumulé de l'expérience à travers les échecs. Il faut s'en servir. Vous n'accumulez pas l'expérience à travers juste les victoires. Il faut le faire aussi dans les échecs. Ça, c'est une bonne chose pour le Sénégal d'apprendre de ses échecs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des équipes qui sont bien plus expérimentées. Et rappelez-vous du quart de finale en 2017. C'est pas le Cameroun qui est meilleur que le Sénégal. C'est qu'à un moment donné, cette expérience, ce vécu, cette institution, tout ce qui constitue une grosse, grosse équipe africaine, fait la différence dans des moments où ça se joue à peu de choses. C'était le cas pour les pénaltys face au Cameroun.
Alors, dans cette équipe, il y a un joyau. Un lion, alors il n'aime pas être attué, lion de la Teranga, mais nous on continuera peut-être à le dire. En tout cas, on a un lion qui est toute griffe dehors, qui a rejoint le groupe évidemment quand il est arrivé à Alicante. Il a été très bien reçu, évidemment auréolé de cette victoire en Ligue des Champions. C'était Sadio Mané. Bien, écoutons El Hadji Diouf parler de lui, votre ami, camarade de jeu, n'est-ce pas, à l'époque, et qui pense que Sadio Mané, il doit être meilleur que les meilleurs dans cette CAN.
Espérons qu'on aura le même Sadio que le Sadio de Liverpool. Moi, je crois que pour Sadio, il doit être prêt. Il doit aller en Coupe d'Afrique en étant le meilleur, en se disant que je suis le meilleur joueur du monde. Et il y a quelqu'un qui m'attend là-bas, qui est aujourd'hui à côté de moi, qui a envie de gagner le Ballon d'Or, que ce soit Salah ou Ziyech. Aujourd'hui, je vais les manger à la Coupe d'Afrique.
Les manger.
qu'un sélectionneur. Alors, si vous me permettez. C'est normal, il parle de son meilleur joueur dans cet effectif, à la limite.
Mais c'est pas le sélectionneur, là. C'est El Hadji Diouf.
Pardon, c'est El Hadji Diouf. Vous allez me dire, donc c'est presque normal au final qu'il utilise
oui,
ce genre de.
C'est
vrai que dans ma tête, j'étais sur le vestiaire.
J'ai
débranché mon cerveau à l'instant.
Tout à l'heure, on parlait de Maradona.
El Hadji Diouf dit ce genre de choses, au final, c'est normal.
J'entends ce que dit El Hadji, et je l'ai vu d'ailleurs quand on était à Dakar, on a discuté. Il a été un joueur extraordinaire pour cette sélection du Sénégal. Je crois que.
Comparable à Sadio Mané?
C'est différent. Ouais. Je pense pas qu'il faille les comparer parce que c'est complètement différent. Et là, j'étais un leader technique, mais aussi un leader charismatique. C'était quelqu'un qui était capable d'endosser toute la pression d'un pays sur ses épaules. Et quelqu'un qui était capable d'assumer ce qu'il pouvait dire, un peu à l'image d'un Zlatan en Europe. C'est-à-dire qu'il avait des déclarations qui étaient parfois au-delà de la limite, mais derrière, il assumait. Et c'est vrai qu'il a en quelque sorte, il a en quelque sorte aussi, à travers ses performances, guidé le Sénégal dans tout ce qu'on a vu de très très bien dans cette génération 2002 et ensuite. Là où on ne faut pas les comparer, c'est-à-dire que je pense que Sadio n'est pas un leader charismatique, c'est un leader technique qui est capable justement techniquement de faire la différence et de guider cette équipe. Mais on le voit à travers ses prestations à Liverpool, il n'est pas un leader charismatique, c'est pas un aboyeur, c'est pas quelqu'un qui va justement être là à vous haranguer. C'est un leader discret, mais qui a pour moi sa carte à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il faut surtout pas focaliser toute l'attention sur lui. C'est ce que j'ai dit à Dakar là pendant quelques jours, c'est que j'ai l'impression que Sadio Mané, c'est omniprésent. Oui, il a gagné la Ligue des Champions. Oui, il a marqué 22 buts avec Liverpool. Mais attendre de lui qu'il soit le même joueur qu'à Liverpool, c'est déjà une erreur puisqu'il ne sera pas entouré des mêmes joueurs. Évidemment. Et demandez pas à Messi d'être aussi bon avec l'Argentine qu'il ne l'est avec Barcelone, parce que vous vous rendez compte que c'est pas le cas. Pour Ronaldo, c'est pareil. Donc, il faudra un groupe. Et surtout que les autres autour de lui prennent leurs responsabilités. C'est aussi ça que l'équipe de Sénégal doit amener aujourd'hui dans cette compétition de façon à grandir. Parce que justement, on a trop attendu de Sadio. Et regardez, en quart de finale face au Cameroun, ça arrive, c'est lui qui rate le pénalty. Donc, c'est des choses qui arrivent au plus grand. Et je pense que Sadio doit être épaulé. Et on a des caractères. Koulibaly, Cherou Kouyaté, des joueurs comme Banyang doivent prendre la relève aujourd'hui, se dire que si Sadio est peut-être un petit peu moins bien, eh ben, c'est à moi de faire la différence. On a des Idrissa Gueye, qui sont des joueurs qui jouent beaucoup en Angleterre, qui sont reconnus. Donc, tout ça doit créer une émulation autour de Sadio. Bien sûr que Sadio, on magnifiera son talent, mais il ne peut pas être seul à guider cette équipe vers un trophée.
David, un petit mot sur cette équipe du Sénégal.
Oui, mais Sadio Mané, moi j'ai à l'inverse d'Habib, mais c'est un paradoxe aussi peut-être médiatique, mais j'ai envie de voir Sadio Mané justement briller, parce qu'il a été quand même durablement presque sous-coté, presque sous-estimé, bien à sûr, côté de Mohamed Salah à Liverpool et d'autres aussi. Ce serait magique, magnifique, si je lui demande pas de changer de personnalité, ça c'est impossible, mais prendre peut-être les choses en main au moment où il va falloir faire la décision, ce serait bien de voir ce joueur-là éclater dans ce tournoi.
Ah bien sûr, ce serait bien, c'est pour ça ce qu'a dit Elhaj, c'est si vrai, c'est qu'il doit aller là-bas avec l'ambition d'être meilleur qu'un Salah, d'être meilleur qu'un
dans l'idée en tout cas.
Bien sûr, parce que c'est important.
Salim, un petit mot sur le Sénégal.
Juste, quand on voit cette équipe du Sénégal, quand même, offensivement, on parle de Sadio Mané, mais Habib l'a dit, quand vous avez un Mbaignan, quand vous avez un Moussa Konaté, un Keïda Baldé, un Ismaël Assar, ces milieux de terrain-là, cette défense-ci, Kalidou Koulibaly, c'est peut-être là qu'on attend, on parle souvent de Virgil van Dijk, évidemment, comme le meilleur défenseur du monde, mais est-ce que c'est pas le moment de Kalidou Koulibaly pour montrer qu'il est l'un des meilleurs défenseurs du monde? C'est peut-être son moment aussi.
Voilà pour ce qui est des Lions de la Teranga, nous on aime bien, qui vont partir à la CAN prochainement. Un petit tour par le Mercato, il nous reste encore quelques minutes dans cette émission, messieurs, et j'aimerais bien qu'on éclaircisse un peu nos auditeurs sur les rumeurs qu'on peut entendre, lire et voir partager sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est vrai, parfois il y a de la fumée, mais il n'y a pas de feu, n'est-ce pas? Ça fait un peu brouillard. Parlons de Paul Pogba. Paul Pogba était jusqu'à présent à Manchester United. Il avait, pensait-on, des envies d'ailleurs. Il est parti en vacances. Alors, lui, il y en a un qui est aux États-Unis, là, Kylian Mbappé. Lui, il était à l'opposé. Il est au Japon. Et, eh bien, il a décidé de parler et il a fait part, tout d'un coup, publiquement, de ses envies.
So, yeah, like you said, there's a lot of talking.
Il y a beaucoup de discussions et beaucoup de réflexions, c'est vrai. Je suis à Manchester maintenant depuis 3 ans. Il y a eu de bons et de mauvais moments, comme tout le monde, comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, je pense que pour moi, ça pourrait être le bon moment de partir. Je pense à ça, d'avoir un nouveau challenge ailleurs.
Donc, si je comprends bien, le champion du monde ne sera plus Mancunien l'année prochaine, Naïm.
Bah pour ça, il faut, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. D'abord, il faut que le club accepte de te libérer. Il faut qu'il y ait un prix suffisamment intéressant pour que Manchester retombe sur ses pieds. Il faut qu'il y ait un club acheteur. Donc ça fait.
Il
quand
avait
même pas
coûté
mal de
très
choses.
Cher à l'époque, on
plus
se souvient.
Plus de 100, ouais, c'était 110, je crois, 105, 110. Donc bon, qu'il ait envie de partir, je le conçois, parce qu'il a d'ailleurs plus ou moins laissé planer quelquefois cette saison. Pendant la saison.
Oui, surtout quand il y avait Mourinho.
Après, ce qu'il faut, c'est le point de chute. Pour Pogba, quel point de chute? On parle beaucoup du Real. Moi, je suis pas convaincu parce que les mecs qui sont censés partir et dont il est censé prendre la place au prolongé. Alors qu'il arrive au Real, oui, sans garantie d'être titulaire. Alors après, on parle d'un retour à la Juve, ce qui est possible avec l'arrivée de Sarri, ce qui serait intelligent d'ailleurs de taper un gros coup et de recruter une star. Pourquoi pas? Après, il faut que la Juve accepte aussi de libérer, pourquoi pas, Miralem Pjanic. Donc voilà, qu'il a envie de partir, c'est une chose. Peut-être aussi qu'il met la pression sur ses dirigeants pour un petit peu réévaluer son contrat. Hein. C'est pas impossible non plus.
Le contrat d'ailleurs qui expire le 30 juin 2021, donc il lui reste 2 ans. Donc logiquement, on dit que la dernière possibilité pour conclure un transfert, s'il ne prolonge pas, c'est cet été, puisque l'année prochaine, il sera en position de force, sa valeur aura vraiment baissé, il lui restera qu'un an. Donc effectivement, c'est peut-être un moyen de dire à ses dirigeants, bon, allonger encore ajouter quelques zéros après la virgule.
Et vous, Patrick, vous le voyez être un futur galactique, nouvelle version Zidane, ou vous le voyez plutôt aller vers la Juve?
Zidane a déjà dit qu'il appréciait le profil de Pogba. Je pense qu'il peut, s'il est concentré, s'il est focus sur son travail, il a les qualités pour jouer au Real. Je suis pas inquiet là-dessus, mais c'est vrai, il faudrait que quelqu'un parte, fasse un peu de place, parce que
Kroos a
prolongé. Ou alors que Modric, Zidane change de système et passe en 4-4-2, ce qui paraît quand même peu probable, puisque en recrutant à la fois Hazard et Jovic et en gardant Benzema, ça fait déjà beaucoup de joueurs offensifs pour ajouter 4 milieux derrière.
Sachant
donc,
qu'il jouera forcément avec Vinicius sur le côté droit.
Voilà, donc c'est difficile. Donc il faudrait que Casemiro soit vendu quelque part, par exemple. Mais jouer à la Juve, ça aurait du sens, puisque déjà il connaît la maison.
Il fait l'aller-retour. Hein,
la Juve n'est pas très loin de gagner la Ligue des Champions. Elle a fait deux finales sur les 5 dernières années. Elle peut encore y prétendre. Et puis il retrouverait Blaise Matuidi, avec qui il a déjà des automatismes en équipe de France. Donc c'est pas inintéressant. Maintenant, ça dépend avant tout de ce que lui préfère. S'il n'est pas très chaud pour retourner à la Juve, est-ce que la Juve sera très chaude pour le prendre en retour? J'en suis pas sûr.
Il y a aussi le Paris Saint-Germain. Alors, quand on s'était quitté vendredi, eh bien, ce n'était pas encore signé. Mais entre-temps, Leonardo, le Brésilien, est arrivé, ou plutôt est revenu. Il a signé vendredi soir, alors que quelques heures plus tôt, on apprenait officiellement que Antero Henrique, le mystérieux directeur sportif portugais, quittait le club parisien. Leonardo a désormais les pleins pouvoirs. En tout cas, c'est ce qu'a expliqué Nasser El Khelaifi, le président de ce club du Qatar. Que va-t-il se passer selon vous au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on doit s'attendre avec Leonardo à beaucoup de changements? Est-ce que sa prise en main va passer par beaucoup de changements selon vous?
Oui, je pense que oui, puisqu'en fait il remplace Antero Henrique au poste de directeur sportif, mais il aura sûrement des attributions beaucoup plus larges et surtout une manière d'exercer le poste.
Il va un peu remplacer Nasser finalement.
C'est-à-dire que Antero Henrique, c'était un recruteur, c'était quelqu'un qui faisait de l'achat-vente. Leonardo va faire jouer ses réseaux pour recruter, mais il va aussi être une sorte de super DRH, directeur des ressources humaines, qui va gérer aussi les égos et les problèmes de vestiaire.
Et il remplira le rôle un peu que Nasser ne remplit plus ces derniers temps.
Et il fera aussi une interface qui incarnera une autorité du club et qui incarnera en fait l'institution.
Le président Nasser a besoin de temps libre en fait pour les multiples activités qu'il a. Il n'est pas assez présent.
Et puis surtout de mise en examen qui en plus. Avec ou sans Leonardo, le PSG de toute façon réanimait le mercato parce qu'il y a des besoins. Tourelle l'a expliqué toute la saison. Il n'y a pas de milieu de terrain. Derrière, il faut doubler au minimum un à deux postes, celui de défenseur central, celui d'arrière gauche. On ne sait pas ce que va devenir Thomas Meunier. Donc de toute façon, avec ou sans Leonardo, le mercato aurait été agité du côté du PSG. Leonardo maintenant, s'il vient, c'est surtout pour cadrer les deux, Neymar et Mbappé. C'est pour essayer de clarifier le dossier Neymar. Soit on le garde, on le remet dans le droit chemin et il joue un peu au foot. Soit il est récupérable, on le dégage. Et puis surtout, essayer de faire d'Mbappé la star qu'il est censé être de par son statut, mais que pour l'instant, les petites querelles intestines ou alors le boulard qui traîne depuis son titre de champion du monde l'empêche vraiment d'endosser.
Comment interprétez-vous les propos de Nasser El Khelaifi, donc ce président, dans France Football, le magazine paraît demain, où il déclare « Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao, je ne veux plus avoir de comportement de star. » Est-ce que ça se dirige directement envers Neymar, contre Neymar? Alors, et voire porte ouverte pour Neymar?
En partie envers Neymar, je pense qu'Mbappé aussi. Il peut pas dire autre chose. C'est de la com. Il peut clairement pas dire autre chose compte tenu de la saison du PSG, compte tenu de l'image qu'envoie Neymar aujourd'hui. Il avait déjà fait une sortie comme ça il y a quelques temps. Il avait dit « moi je veux des joueurs prêts à bouffer le gazon ». Bon, force est de constater qu'il n'avait pas spécialement été entendu. Donc, il peut pas dire autre chose aujourd'hui. C'est un discours qui va de pair avec le retour de Leonardo. Ça va dans le sens de ce que disait Patrick, c'est que Leonardo va être l'espèce de super DG du PSG qui va avoir les pleins pouvoirs et qui va ramener de l'ordre dans la maison. Voilà. Maintenant, ce sont des paroles. Si dans 3 semaines, 1 mois, j'apprends que Neymar est vendu même 80 millions parce qu'on en a marre de son comportement, là je dirais, ah tiens, il a joint l'acte à la parole.
Neymar qui est encore de nouveau au problème avec le fisc, cette fois-ci du côté du Brésil, hein, 70 millions de réals, alors ici ça vaut beaucoup moins, mais là-bas quand même.
C'est une quinzaine de millions d'euros, c'est ça?
Oui, et il a de gros problèmes à tel point que toutes ses maisons et appartements ont été bloqués, notamment toutes les maisons du balnéaire. C'est déjà la fin de Radio Foot International.
Ça passe toujours trop court.
Toujours trop court. Oui, c'est ce que dit Habib Bey, c'est ce qu'on dit aussi de temps à autre. Mais c'était la deuxième édition en plus aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis en cette version nocturne de Radio Foot. David Finzel, bien sûr, était là pour préparer cette émission avec moi. Laurent Salerno était à la réalisation. Et on vous dit À demain.